Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint.
Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous. Fou, génial, obsessionnel, provocateur, illuminé. Il ne manque pas d'adjectifs pour qualifier mon invité aujourd'hui, James Ellroy. Reste que cet écrivain américain qui ne laisse personne insensible est l'auteur d'une œuvre littéraire hors norme et unique. Depuis les années 80 où il a commencé à publier ses romans noirs, au nombre d'une vingtaine à ce jour, James Ellroy n'a eu de cesse de creuser, de décortiquer, de démystifier inlassablement la grande histoire des États-Unis. Célèbre dans le monde entier avec L.A. Confidential, Le Dahlia Noir ou encore White Jazz, James Ellroy a aussi dévoilé dans son récit « Ma part d'ombre » le traumatisme de l'assassinat de sa mère en 1958 alors qu'il n'avait que 10 ans. Un meurtre jamais élucidé sur lequel il a lui-même enquêté mais qui n'a toujours pas livré ses secrets. Pas étonnant donc que les années 40, 50 et 60 soient aussi le terrain d'écriture préféré de James Ellroy, à la recherche peut-être d'une ambiance, d'une époque, d'une vérité qui le touche personnellement. Les Enchanteurs, son nouveau roman qui vient de paraître aux éditions Rivage Noir dans une traduction de Sophie Aslanid et Séverine Weiss, prolonge cette relecture des légendes américaines en s'attaquant ici peut-être à sa plus éclatante, Marilyn Monroe, et son mystérieux décès le 4 août 1962. Une mort qui n'inspire pas directement l'écrivain, mais qui lui permet de dresser le panorama corrosif du milieu du cinéma lié à la politique, la police, la corruption et autres affaires sordides. S'il est impossible de résumer le spectaculaire scénario inventé par Ellroy, qui met en scène une centaine de personnages, proches, témoins, enquêteurs, suspects, qui gravitent autour de Monroe, et si le début du roman peut dérouter la lecture, Les Enchanteurs reste une fiction fascinante, où Ellroy déploie tout son talent de raconteur d'histoire via son narrateur, Freddy Otash, détective sans grande moralité. Invité d'honneur au Festival America qui se tient actuellement à Vincennes, aux portes de Paris, James Ellroy a accepté cet entretien exceptionnel que vous allez entendre dans un instant, mais se refuse à commenter l'actualité politique et les élections présidentielles à venir. C'est donc de littérature qu'il sera question ici uniquement, avec un écrivain qui, à 74 ans, n'a rien perdu, ni de sa liberté d'expression avec ici et là quelques grossièretés, ni de son grain de folie. Il est bien possible que vous l'entendiez à l'occasion grogner au micro, voire aboyer, puisqu'il aime lui se présenter comme « the dog », le chien, rencontre. Bonjour James Ellroy.
Hey, how are you? What's shaking?
Bonjour, comment ça va? Ça roule?
Votre nouveau roman, Les Enchanteurs, se déroule en 1962 à Los Angeles, entre avril et octobre, et au milieu, en point d'orgue, la mort de Marilyn Monroe. Compte tenu de votre œuvre, c'est une période, un sujet qui ne nous étonne pas sous votre plume. En revanche, ce qui est presque surprenant, c'est que vous n'ayez pas écrit ce livre plus tôt. Alors pourquoi maintenant, James Ellroy?
The idea came to me recently. I saw how I could put together.
Tout simplement, l'idée ne m'était pas venue avant, et puis cette idée m'est apparue. J'ai vu comment je pouvais associer ces différents événements de 1962 pour écrire la suite de mon premier roman autour du personnage de Freddy Otash, Panique Générale, qui était un roman dont le ton était plutôt satirique et comique, alors que là, c'est pas du tout le cas des Enchanteurs, c'est plutôt un livre tragique.
Vous aviez 14 ans, James Ellroy, en 1962, et vous viviez à Los Angeles. Quel souvenir avez-vous de cette année-là?
Yeah. I remember peeping windows, looking for girls. I remember a girl in junior high school named Donna Weiss. I remember a girl in junior high school.
Oui, je me souviens d'avoir épié les filles par les fenêtres. Je me souviens d'une fille au collège qui s'appelait Donna Wise. Je me souviens d'une fille au collège qui s'appelait Leslie Jacobson, d'une fille au collège qui s'appelait Cathy Montgomery et d'une fille au collège qui s'appelait Jenny Blumenfeld.
I remember smoking some marijuana with a couple of Mexican kids that I knew.
Je me souviens d'avoir fumé de l'herbe avec des gamins mexicains qui allaient dans un autre collège. Je me souviens de mon formidable ami disparu depuis, Katney Miranda Rice. Je me souviens des bêtises qu'on faisait tous ensemble.
Wishing that my father would die so I could be on my own and get out of high school.
Je me souviens d'avoir eu envie que mon père meure et pour pouvoir arrêter le collège, je détestais ça.
Oh, I remember the Cuban Missile Crisis. Yeah, that was cool. The world didn't blow up. America won.
Je me souviens de la crise des missiles de Cuba, ça c'était cool, le monde n'a pas implosé, l'Amérique a gagné, les communistes ont perdu, donc ça c'était bien.
Beaucoup de filles, est-ce que vous vous souvenez de la mort de Marilyn Monroe, de fait, le 4 août 1962?
Yeah, I recall it, I heard about it on the radio.
Oui, j'ai entendu la nouvelle à la radio.
And I've only seen a few of her movies. I didn't like her.
Et j'avais juste vu certains de ses films, j'avais pas tellement aimé et comme vous l'avez déjà compris, j'ai pas beaucoup de considération pour elle.
She is one character out of many.
C'est un personnage parmi d'autres, moi je la considère comme un personnage assez insignifiant du point de vue culturel, une très mauvaise actrice, quelqu'un d'assez nul sur le plan humain, quelqu'un de misogyne, d'amère, d'une avaricieuse, pas du tout sympathique, qui est déjà à la fin de sa vie. Le livre, en fait, ce dont il parle, c'est, c'est de cette année 1962, justement, de cette période très particulière et de ce mythe autour des Kennedy, de John Fitzgerald Kennedy, de son frère, etc.
Les Enchanteurs, l'histoire nous est racontée par Freddy Otash. Personnage aux multiples casquettes, flic, détective, journaliste, corrompu, qui carburait à l'alcool, aux médicaments. Un homme qui a vraiment existé et que vous avez connu, James Ellroy. Il est apparu d'ailleurs dans plusieurs de vos romans. Et malgré ses défauts, on a beaucoup de sympathie pour lui au fur et à mesure de la lecture. Comment est-ce que vous expliquez ça? Est-ce que vous aussi, vous aviez de la sympathie pour lui?
Non, I didn't leave a sack of shit.
This
is my fictional version of him. I've rewritten his life from the ground up. He was a slob. I mean, look at him. He's six of the seven ugliest men that ever lived. But in the book, he's a handsome stud.
Non, c'était un sac à merde. J'en ai fait vraiment un personnage de fiction. Hein. Le vrai Freddy Otash était vraiment un gros connard et le type le plus moche de la Terre. Alors que dans le livre, j'en fais une espèce d'étalon. Il est beau gosse, il est bien habillé. Il ressemble un peu à moi, mais en version libanaise, en fait. Si j'avais été libanais, j'aurais à peu près la tête de Freddy Otash telle que je l'idéalise.
Mais alors, pourquoi l'avoir choisi pour être le narrateur de ce roman? Qu'est-ce qu'il incarne pour vous, James Ellroy?
He was perfect for it. And I knew it. I got the idea. And when I get an idea and the idea sticks, I know I've got something going.
Alors, il est parfait pour ça, tout simplement. Je l'ai su dès le début, en fait. Et je sais que quand il y a une idée qui commence à me trotter dans la tête, c'est qu'il y a un truc.
Political corruption, police corruption, Freddy Otash's purported love affair.
Et là, j'ai su dès le début qu'avec tous ces éléments disparates, la corruption politique, la corruption policière, les affaires, les aventures supposées, et en particulier l'aventure que Freddy Otash aurait eue, qui était en fait un coup d'un soir en 1945 avec la Benjamine des Kennedy, Patricia.
Freddy beats the shit out of him three or four times in this book, and I had a great deal of fun writing those scenes.
Qui ensuite s'est marié avec Peter Lawford, qui était cet affreux acteur britannique. D'ailleurs, dans le livre, Freddy Otash lui défonce la gueule plusieurs fois. Et c'était assez jouissif à écrire, car Peter Lawford était vraiment un gros naze.
Alors, c'est vrai que Les Enchanteurs, c'est un grand roman à la fois de divertissement, aussi un roman quand même très documenté. Mais vous inventez des choses extraordinaires, James Ellroy. Par exemple, Freddy Otash, il est payé au début par Jimmy Hoffa pour suivre Marilyn Monroe. Et d'ailleurs, le 4 août, il sera dans la chambre et il va constater qu'elle est morte. Et après, hop, il va changer de patron. Il va redevenir flic et enquêter aussi un peu pour Kennedy Bobby. Mais alors, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Ou est-ce que pour vous, la littérature, c'est juste un grand jardin d'exploration où on s'amuse d'abord?
I never answer that question. What's real and what's not?
Je ne réponds jamais à cette question.
I'm creating what I call a reckless verisimilitude, a semblance of truth.
Ce que je fais, c'est que j'invente ce que j'appelle une similitude, une vraisemblance impitoyable. C'est-à-dire que je crée un monde qui paraît vrai et je passe tout le temps, vous lisez le livre, à vous convaincre en tant que lecteur que ce que je vous raconte est vrai. Peut-être qu'après, avec le recul, vous vous rendrez compte qu'en réalité, ça ne colle pas, que vous direz « mais non, Elroy a complètement inventé ce truc-là » et c'est très bien.
Moi, quand je lis Les Enchanteurs, je suis éblouie par l'immense toile d'araignée que vous créez, avec des centaines et des centaines de ramifications entre tous les personnages. D'ailleurs, il y a combien de personnages ici ? Une centaine. Comment est-ce que vous réussissez à travailler toutes ces connexions entre tous les personnages qui, pendant cette année 1962, se croisent et s'interrogent sur éventuellement pourquoi et comment est morte Marilyn Monroe ? Mais éventuellement, ce n'est absolument pas la question de votre livre, on est d'accord.
I wrote a 400-page outline. The outline is the result of hundreds of hours spent writing down my ideas, laying in the dark and thinking about this book,
J'ai écrit un plan pour ce livre qui faisait 400 pages et qui était le résultat de centaines d'heures de travail. À noter toutes mes idées, à réfléchir dans le noir, allongé au personnage, à l'intrigue, à ce qui allait se passer, par exemple, à réfléchir autour de ce suicide en 1948 de l'actrice Carol Landis, à me débarrasser de certaines idées, à trouver des alternatives pour finalement écrire ce plan sur 400 pages et ensuite écrire le livre.
C'est là, James Ellroy, où on peut dire qu'il y a certaines similitudes avec votre personnage Freddy Otage, la version romanesque. Puisque lui aussi, il est très obsessionnel. Il lit beaucoup, il lit tous les articles, il cherche. Lui aussi, il écrit un rapport de 400 pages. Donc, dans quelle mesure, c'est pas un peu votre double littéraire et que vous êtes, vous, le supra-enquêteur comme Freddy est votre enquêteur en 1962?
Non. His report writing was inserted into the text. So that I wouldn't have to go back and constantly explain which one of Freddy.
Non, en réalité, l'histoire du rapport que Freddy écrit, je l'ai intégré dans le texte simplement pour ne pas avoir à tout expliquer plusieurs fois et préciser quel collègue de Freddy Otage sait à quel moment de l'intrigue une dizaine de personnages au total qui travaillent avec Freddy Otage. Et c'était tout simplement un outil. Ils déposent le rapport dans leur boîte aux lettres et donc on sait qui sait quoi à quel moment.
Oui, mais quand même, je me permets d'insister, James Ellroy. Quels seraient vos points communs avec Freddy Otage alors?
Women and drugs, that's one thing. Voyeurism.
Nos points communs sont sans doute les femmes, la drogue d'une part, le voyeurisme aussi. Tout ça d'ailleurs est lié.
When I was younger, I was short-tempered, like Freddy is, you know.
Quand j'étais jeune, j'étais colérique, comme lui.
Freddy by a number of years, and I have healthy habits, and he had very bad habits, and I grew up in ways that he never grew up, or at least he hasn't grown up.
Mais en réalité, j'ai déjà survécu à Freddy Otage de plusieurs années. Moi, j'ai un mode de vie sain. Lui avait de très mauvaises habitudes. Et puis, je crois qu'il n'a pas évolué comme moi, j'ai pu évoluer. En tout cas, pas dans les deux livres que je lui consacre. Mais dans le prochain roman, Freddy Otage va rencontrer une femme. Et pour moi, tout drame, c'est la rencontre entre un homme et une femme. C'est la base.
Ça me fait penser à ce que disait Hitchcock. Filmer une histoire d'amour comme un film noir. Et vous, James Ellroy, vous écrivez des histoires d'amour comme si c'était un roman noir?
I do, and it's no big surprise that my favorite Hitchcock movie is Rear Window, which is entirely a movie about.
Oui, et sans surprise, mon film préféré de Hitchcock, c'est Fenêtre sur cour, qui pour moi est vraiment son chef-d'œuvre et qui est un film qui parle intégralement du voyeurisme.
Et donc, on en arrive à cette question très importante. Freddy Otage, il a un don, c'est la caméra humaine. dit-il. C'est-à-dire que quand il rentre dans une pièce, il peut tout mémoriser, les détails, tout ce qu'il lit. Est-ce que vous avez aussi ce don, James Ellroy, de la caméra humaine? Ou est-ce que vous aimeriez la voir si vous ne l'avez pas?
Well, the man camera device is my way to explain Freddie Otash's extraordinary acuity.
La caméra humaine, en fait, c'est mon truc pour expliquer l'acuité extraordinaire de Freddie Otash et sa capacité justement à imprimer des détails minuscules de scènes de crime et à les garder en mémoire très très longtemps dans son esprit très affûté d'enquêteur, de détective.
And it's also, it's one of the main facets of his.
C'est aussi une des facettes de son voyeurisme.
The genesis of the man camera idea, as much as I can look back over my life of going to movies and reading books, is the great Antonioni film Blow Up, wherein a photographer, it's a 1966 movie, a photographer.
Mais aujourd'hui, avec le recul, celui d'une vie de lecteur, de cinéphile, je me rends compte que la genèse de cette idée, c'est sans doute le film d'Antonioni de 1966, Blow Up, dans lequel un photographe aperçoit et suit une femme très grande. Elle est dans un parc public. Il va la photographier et il assemble différentes photos, celle d'un homme avec qui elle a possiblement une aventure, celle des buissons.
And to this day, that movie thrills me and moves me, and I was absolutely thunderstruck by the woman herself, who was the young Vanessa Redgrave. I have never had that kind of visceral reaction to a motion picture actress that I will never meet. You know, it's never going to happen. And by all accounts, and God bless her, she's still with us.
Et à ce jour, c'est un film qui me remue encore énormément, qui m'excite énormément quand je le vois. C'est cette actrice principalement qui était Vanessa Redgrave jeune, qui m'a complètement époustouflée quand je l'ai vue pour la première fois. J'avais jamais eu une réaction aussi viscérale à une actrice de cinéma que je n'avais jamais vue, que je ne rencontrerai jamais. Elle est, Dieu la bénisse, toujours en vie, âgée et fragile, mais elle va encore à la messe toutes les semaines. Mais voilà, je n'allais jamais la rencontrer et jamais une star de cinéma ne m'avait autant remuée. Et j'ai gardé en mémoire le moindre détail de ses vêtements, de ce à quoi elle ressemblait, de ses interactions avec la star masculine du film David Hemmings, la façon dont elle était filmée pour qu'elle ne paraisse pas plus grande que lui, alors qu'en réalité, elle l'aurait complètement dominée de sa haute taille.
And it is the basis, I think, because I saw the film recently with friends at home in Denver. I thought, oh shit, this is the basis of so much of the police work that I do. So much. This is the derivation of my depiction.
Et tout récemment, j'ai revu ce film avec des amis à Denver et je me suis dit, mais merde, en fait, c'est exactement de là que ça part, ma manière de dérouler mes intrigues policières, la façon dont je représente justement ces techniques de surveillance. Et c'est quelque part une explication artistique à mon voyeurisme déjà bien ancré.
Your pretty brown eyes, your wavy hair, I won't go home no more, cause you're not there. I'm telling you now, like I told you before, I'm so in love with you, don't leave me no more. Lipstick traces on a cigarette, every memory lingers with me yet. I've got it bad, like I told you before, I'm so in love with you, don't leave me no more.
Won't you come on home?
Oh, won't you come on home?
Won't you come back home?
Oh, won't you come back home? I'm crazy about you, can't.
won't you come on home? Lipstick traces on a cigarette. Every memory lingers with me yet. I've got it bad, like I told you before. I'm so in love with you.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI aujourd'hui en compagnie du grand écrivain américain James Ellroy qui publie aux éditions Rivage Noir Les Enchanteurs dans une traduction de l'anglais par Sophie Aslanide et Séverine Weiss. Et nous continuons avec vous, James Ellroy, de parler de cinéma. Vous avez cité Vanessa Redgrave. On l'a entendu, Marilyn Monroe, ce n'est pas une actrice que vous aimez. En revanche, vous faites un portrait très beau de Lois Nettleton. Qu'est-ce qui fait que l'une devient célèbre et l'autre pas? C'est une question quoi, de chance, d'époque? Comment est-ce qu'on explique ça, James Ellroy?
I don't know. Monroe is in the right place at the right time to achieve the notoriety that she achieved. And Nettleton worked primarily on Broadway. She was Barbara Bel Geddes's understudy in the original Broadway production of Tennessee Williams's play.
Je sais pas, j'en sais rien du tout. Je pense que Marilyn Monroe était au bon endroit, au bon moment pour atteindre la célébrité qu'elle a obtenue. Lois Nettleton, c'était plutôt une actrice de Broadway, en fait. Mais elle a joué le rôle-titre de la chatte sur un toit brûlant. Elle a été choisie par Elia Kazan pour cette raison. Elle a joué de très grands rôles. Elle a joué Un tramway nommé Désir. Donc elle a joué des grands rôles, mais elle n'est jamais devenue un grand nom du cinéma et de la télévision.
Est-ce que c'est là que l'écrivain, le romancier que vous êtes, James Ellroy, peut d'une certaine façon rendre justice? C'est-à-dire que dans votre roman, vous remettez en lumière des personnes qui ne sont pas passées à la postérité, vous changez, vous améliorez l'histoire peut-être?
Non, je ne peux pas changer l'histoire. Je ne sais pas combien de personnes worldwide will read this book or much care about Lois Nettleton.
Non, pas du tout. Je ne peux pas changer l'histoire. Je ne sais pas d'ailleurs combien de personnes vont lire ce livre, ni combien vont s'intéresser beaucoup à Lois Nettleton. Je pense que la plupart penseront qu'il s'agit surtout d'un personnage de fiction. Moi, je ne suis pas là pour changer la vision du monde qu'ont les gens, ni même pour changer le monde lui-même, en aucune façon. Ce n'est pas ce que je fais.
C'est quand même une vision de cette époque que vous proposez, James Ellroy. Donc, d'une certaine façon, vous racontez l'histoire autrement. Et par exemple, cette mort de Marilyn Monroe, c'est une autre version, mais qui est tout à fait crédible. C'est comme si vous étiez un peu Dieu, vous réécrivez quand même l'histoire selon votre perspective.
Well, of course. Yeah. I'm rewriting history to my own specifications.
Oui, bien sûr. Je suis là pour réécrire l'histoire comme ça me chante. Et je suis là pour vous toucher, vous bouleverser en tant que lectrice, pour vous exciter, pour vous scandaliser, pour vous érotiser aussi dans la lecture, pour vous arracher à votre vie quotidienne et pour faire en sorte que vous lisiez le livre d'une manière aussi obsessionnelle que moi je l'ai écrit.
Et de fait, ce livre, quand il est lu par les Américains, ce n'est pas la même chose que quand nous, on le lit ici en France, parce que ce n'est pas notre histoire. Il y a une différence. Est-ce que vous sentez, James Ellroy, depuis que vous êtes arrivé en France, que ce livre est lu différemment par les Français que par les Américains?
This is a reading culture here in France, much more than... Then the American culture is a reading culture.
Ici, c'est une culture de lecture. La culture de lecture en France est bien supérieure à la place qu'on accorde à la lecture aux États-Unis.
Et alors, la question inverse, comment les Enchanteurs ont été reçus par les lecteurs américains?
As always, people are shocked, they're appalled. How could you write this horrible book about these very, very notable figures. Don't you think it's transgressive?
Oui, comme toujours, la réaction est que les gens sont choqués, beaucoup de lecteurs sont scandalisés, ne comprennent pas comment j'ai pu écrire une histoire aussi horrible sur des personnages aussi connus. Il y a quelque chose de très transgressif là-dedans. Bon, il y a une certaine reconnaissance de la qualité de mon œuvre, mais les gens n'ont pas envie de la soutenir, de la promouvoir. Il y a une peur aux États-Unis. Ce n'est pas du tout la même chose qu'en France. Au contraire, on n'arrête pas de célébrer ce que je fais. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je ne vis pas en France. Je devrais me trouver une petite tanière à Saint-Germain, venir swinger un peu et voir comment ça se passe.
Yeah. Let's swing, yeah. Move to France and swing. You know, I would not be the first American novelist to have this idea.
Je ne serais pas le premier romancier américain à avoir cette idée de s'installer en France pour venir swinger un peu.
I've had a lot of crazy ideas. When I was divorced,
mais en tout cas, ce genre d'idées un peu dingues, j'en ai déjà eu plusieurs fois. Quand j'ai divorcé de la femme qui était à la fois ma seconde et ma troisième épouse, j'ai eu cette idée qu'il fallait que je me trouve une copine anglaise qui est justement une petite tanière à Londres et surtout qui posséderait un bulldog.
So I moved to London and lived there for a while. I met this woman. She had a pit bull dog named Rupert.
Et j'ai trouvé cette fille, croyez-moi, et donc je me suis installée à Londres. Elle avait un bulldog qui s'appelait Rupert, un nom bien anglais pour un bulldog, qui passait sa vie à essayer d'attraper le chat du voisin. C'était son objectif de vie, mais le chat était bien sûr trop rapide.
Anyway, it didn't work out with the woman. Because I didn't really love the woman, I really loved the dog.
Ça n'a pas marché avec cette fille parce que je ne l'aimais pas elle. En fait, j'aimais plutôt son bulldog. Mais il faut faire attention quand même à ce qu'on souhaite. C'est ça le message.
Mais moi, je pense que vous seriez très heureux en France, James Ellroy, et à Paris. Dernière question. Qui sont les enchanteurs? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est ironique?
The enchanters are the false prophets of the Jive Kennedy era.
Les enchanteurs, ce sont les faux prophètes de l'ère du Jive et des Kennedy.
Donc, c'est un titre cynique, caustique.
No, it's an elegiac title, and it references.
Non, non, c'est un titre qui est plutôt élégiaque. En fait, c'est une référence à la pop culture américaine et à la littérature populaire des années 60 qui a été énormément négligée, déconsidérée, et à des auteurs que j'adorais à l'époque, comme Harold Robbins et Irving Wallace.
Donc, James Ellroy, vous êtes un écrivain enchanteur.
Sure. I come to enchant your ass. Yeah.
Bien sûr. Je suis un enchanteur.
The collective ass of,
je suis là pour vous enchanter, les Français à la fois. Je suis là pour vous enchanter tous. Je suis là pour vous choper.
Merci beaucoup, James. Merci beaucoup de nous avoir enchantés tout au long de cet entretien exceptionnel, évidemment, à propos de ce nouveau roman, je l'ai dit, Les Enchanteurs, qui a été édité par François Guérif aux éditions Rivage Noir, dans une traduction de l'anglais par Sophie Aslanid et Séverine West. Et mille merci, évidemment, à Marguerite Capel, qui a été votre voix française tout au long de cet entretien et qui vous a suivi. Nous vous en remercions beaucoup, James Ellroy.
Thank you.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint. Apolline Verlon. Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.